C'est pour le croyant une impérieuse nécessité de savoir qu'il a un esprit. Et c'est là, comme nous allons le voir dans cette série, l'homme spirituel, l'importance non seulement de réaliser que l'on a un esprit, mais de savoir le faire fonctionner. Parce que c'est dans notre esprit que s'effectuent toutes les communications de Dieu avec l'homme. Alors j'aimerais vous donner quelques versets de référence, et je vous les laisse chercher dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16, il est parlé de notre esprit. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, l'esprit de l'homme qui est en lui. Chapitre 5, verset 4, il est mentionné « mon esprit ». Chapitre 14, verset 14, c'est encore « mon esprit ». Chapitre 14, verset 32, il est parlé des esprits des prophètes. Nous avons aussi dans Hébreux la mention « les esprits des justes », Hébreux 12, verset 23. Dans l'Ancien Testament, le Proverbe 25, verset 28, qui se réfère à son propre esprit, ou bien encore, peut-être le plus important de l'Ancien Testament, Zacharie 12, 1, qui déclare que l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, ces versets, à l'évidence, prouvent bien que, parce que nous sommes des êtres humains, nous possédons bien aussi un esprit humain. Et l'esprit n'est pas synonyme de l'âme, et ce n'est pas non plus le Saint-Esprit. C'est, vous vous souvenez, ce que Jésus a dit à la femme samaritaine au puits de Sichar, cette grande vérité: le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est donc avec notre esprit que nous pouvons adorer Dieu. Mais l'enseignement de la Bible est clair, mais nous devons reconnaître que l'expérience des croyants est assez faible par rapport à cette conscience du fonctionnement de leur esprit, de cette nécessité d'avoir un esprit libre, un esprit pur, un esprit sanctifié, d'avoir un nouvel esprit, comme il nous est dit dans le cadre de la Nouvelle Alliance, que Dieu nous donne un nouvel esprit. Et nous avons vraiment besoin d'approfondir cette connaissance pour qu'elle devienne pratique dans notre vie. On peut dire que l'esprit, il est composé de trois grandes parties. Il a trois grandes fonctions. La fonction de la conscience, c'est dans notre esprit que nous avons la conscience de Dieu. La fonction de l'intuition, qui est différente de l'intuition, de l'âme. L'intuition spirituelle, c'est une dimension de révélation de la pensée de Dieu. Et la troisième fonction, c'est la communion avec Dieu. La conscience, l'intuition, la communion. La conscience étant en quelque sorte l'organe de discernement de notre esprit qui va considérer en quelque sorte tout ce qui nous arrive et va pouvoir juger de façon spontanée et directe en fait ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui amène la vie ou ce qui amène la mort. Donc le travail en fait de la conscience ne va pas être dépendant de la pensée, il va être complètement indépendant, elle ne va pas se plier aux opinions du dehors. Si l'homme fait mal, elle va immédiatement élever une voix accusatrice, et à l'intérieur de nous, nous savons que nous avons mal fait. L'intuition, c'est l'organe, sensible de l'esprit humain. Il est complètement, bien sûr, différent des sens physiques de perception ou de la sensibilité psychologique. psychique, c'est-à-dire de l'âme, c'est-à-dire intellectuelle. L'intuition, donc, implique cette perception directe qui est indépendante de toute influence extérieure. Et cette connaissance que nous avons nous vient sans aucun secours de notre intelligence, sans aucun secours de nos émotions ou de notre volonté. C'est vraiment une connaissance intuitive. Nous savons véritablement. Nous savons que nous savons que nous savons. Je sais que je sais que je sais. On peut me dire le contraire, mais je sais. Je sais. C'est quelque chose qui s'impose à mon esprit. Je sais. Donc, en tant que croyant, nous devons être très attentifs, en quelque sorte, à ces deux pôles de notre esprit. C'est la voix de la conscience et l'enseignement de notre intuition. La troisième fonction de l'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la communion, c'est donc l'adoration, ce qui nous permet l'adoration de Dieu. Il faut bien comprendre que les organes de l'âme ne sont pas compétents, ne sont pas capables pour adorer Dieu. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. C'est pour ça qu'il est si important que nous fassions cette différence. Dieu ne peut être connu que par notre esprit. Il ne peut pas être connu par nos sens, par notre corps, et il ne peut pas non plus être connu par notre psychisme, notre âme. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit, et ce n'est que la dimension spirituelle incréée de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire notre dimension spirituelle, qui va pouvoir toucher Dieu. C'est les choses de même nature qui se rencontrent. Donc nous ne pouvons toucher Dieu que par notre esprit. Nous sommes ouverts au monde spirituel. Après la chute, bien sûr, nous sommes ouverts au monde spirituel des ténèbres, mais lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous sommes venus dans la foi à Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté l'œuvre de Jésus-Christ comme étant cette œuvre de rédemption pour notre vie, alors à ce moment-là, nous entrons dans ce royaume de la lumière et nous sommes capables d'avoir cette relation à Dieu. Nous entrons donc dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, et nous recevons ce qu'il est dit dans Ézéchiel, ce qui est promis dans Jérémie, ce nouvel esprit, ce nouveau cœur sur lequel se trouve gravée la loi de Dieu. Donc, on peut conclure qu'en fait, ces trois éléments, la conscience, l'intuition et la communion, sont, même si nous les séparons pour en parler, sont dans une profonde dépendance mutuelle et leurs fonctions sont obligatoirement coordonnées. Par exemple, la relation qui va unir la conscience à l'intuition, c'est que la conscience va juger de la chose, si elle est juste ou elle n'est pas juste, d'après l'intuition. La conscience va condamner toute conduite qui ne suit pas les directives données par l'intuition. Mais l'intuition, elle est forcément reliée à la communion ou à l'adoration par le fait que c'est intuitivement que Dieu est connu de l'homme. Dieu se révèle à l'homme de façon immédiate. Et donc, c'est par l'intuition que Dieu va révéler à l'homme sa volonté. Je vais vous donner aussi des versets bibliques pour que vous puissiez aller voir par vous-même les références. Alors, la première partie, c'est la fonction de la conscience dans l'esprit de l'homme. Eh bien, vous avez Deutéronome 2:30, où il est dit que l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible. Le psaume 34, verset 18, il sauve les esprits abattus. Dans Jean 13, verset 21, il est dit « Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit. » Acte 17, 16, « Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Romains 8, 16, « L'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 1 Corinthiens 5, 3, « Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. 2 Corinthiens 2, 12, je n'eus point de repos d'esprit. Enfin, un que nous aimons tous beaucoup, ce verset de 2 Timothée 1, 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Là, c'est toute la fonction de la conscience dans l'esprit de l'homme. Il y a beaucoup d'autres versets, moi je vous donne les principaux. La deuxième catégorie, la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme, eh bien, nous avons dans Matthieu, par exemple, Matthieu 26, verset 41, l'esprit est bien disposé, mais... Marc 2, 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit. Marc 8, 12, Jésus soupirant profondément en son esprit. Jean 11, 33, Jésus frémit en son esprit. Il est dit encore dans Actes 18, 25, fervent d'esprit. Ou encore dans Acte 20, verset 22, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem. 1 Corinthiens 2, 11, lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? 1 Corinthiens 16, verset 18, ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Et un dernier verset, 2 Corinthiens 7, verset 13, Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Voyons là la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme, Jésus étant évidemment, bien évidemment, notre modèle. La troisième fonction, grande fonction de l'esprit, c'est la fonction de communion. Alors lisons dans Luc 1, verset 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Jean 4, 23, bien sûr, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » Romains 1, 9, « Que je sers en mon esprit. » Romains 7, 6, « Que nous servons dans la nouvelle vie de l'esprit. » Romains 8, 15, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 1 Corinthiens 14, 15, « Je chanterai par l'esprit. » 1 Corinthiens 14, 16, « Si tu rends grâce par l'esprit. » Et Apocalypse 21, 10, Il me transportera en esprit. Donc tous ces passages nous montrent une chose, c'est que l'esprit possède au moins ces trois fonctions. Alors les personnes qui ne sont pas régénérées, qui n'ont pas fait cette démarche de foi envers le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore la vie de Dieu, possèdent bien sûr ces fonctions, bien que leur esprit soit mort à Dieu. N'oubliez pas que la mort, c'est la rupture de relation. À la chute, Adam est mort. Mort dans sa relation à Dieu. Il a commencé par être expulsé du jardin d'Éden. Dieu ensuite a pourvu. Mais pour que la relation puisse être rétablie, et c'est en type, lorsqu'il a sacrifié des animaux, lorsque le sang d'animaux a coulé, pour qu'il puisse être revêtu, Dieu a trouvé un moyen, Dieu a annoncé en type la mort du Seigneur Jésus, le substitut, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais sans cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et sans avoir foi en lui, nous restons morts dans notre relation à Dieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas la véritable relation avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire que notre esprit ne puisse pas fonctionner dans ces trois grandes fonctions que je viens de mentionner, mais nous sommes ouverts au monde spirituel des ténèbres. En fait, avant ce que nous appelons la nouvelle naissance, on peut dire que l'esprit de l'homme est tellement enténébré, puisqu'il est dans le monde des ténèbres et qu'il est en relation avec le monde des ténèbres, qu'il n'ayant plus la communion possible avec Dieu, il a forcément la communion avec d'autres entités spirituelles, et c'est l'âme qui a pris le dessus, l'âme qui est la vie naturelle de l'homme, puisqu'il n'est plus mu par la vie spirituelle de Dieu, puisqu'il n'est plus... l'homme n'a plus sa source en Dieu, qui est le Dieu de la vie, qui est la vie donc de Dieu, ne l'anime plus, et bien c'est donc la vie naturelle, la vie de l'âme, qui a pris le dessus, et l'esprit est comme, en quelque sorte, oui, on peut dire en quelque sorte, ratatiné. Il est noyé, enveloppé dans son âme. Et c'est pour cela que les fonctions de l'esprit et les fonctions de l'âme se sont mélangées. C'est pour ça que dans le monde grec, on ne conçoit pas autrement l'homme qu'une dualité. Le physique, le concret, le visible contre l'invisible, c'est-à-dire l'âme, effectivement, le caractère de la personne. Et on ne voit pas que dans l'âme, il y a quelque chose qui est l'homme intérieur, très intérieur, le centre de notre être, qui est notre esprit. Donc, quand nous venons, lorsque nous vivons cette dimension de la régénération, c'est nécessaire pour le croyant que s'accomplisse en fait cette séparation de l'âme et de l'esprit, et c'est ce qu'il est dit dans Hébreux 4:12, et c'est la parole de Dieu, je dis bien la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui me parle, ce n'est pas la Bible qui va faire cela, mais c'est la parole de Dieu adressée à mon cœur qui va faire cette séparation entre mon âme et mon esprit. Je vais apprendre à discerner ce qui vient de mon âme, de ce qui vient de mon esprit. C'est pour ça qu'il nous est demandé de renouveler notre intelligence, d'offrir nos corps au Seigneur, Romains 12:2, d'offrir nos corps en sacrifice volontaire et de renouveler notre intelligence. Cela nous incombe. Ce n'est pas Dieu qui va renouveler notre intelligence. Dieu nous a donné un nouvel esprit, il nous a donné un nouveau cœur qui est l'interface entre l'esprit et l'âme. L'intelligence fait partie de mon âme et cette intelligence doit se laisser renouveler afin de manifester la pensée de Christ que nous avons en potentiel, puisque à la croix nous sommes morts avec Christ. Donc si nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités en lui et en lui nous avons sa pensée. C'est un point de départ et non un point d'arrivée, comme malheureusement c'est trop souvent considéré.